Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar, au Sénégal. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Eugène Péwa Pilima est un ancien basketteur centrafricain, coach de basket, mais aussi dirigeant de la balle au panier. Il nous fait l'amitié d'être avec nous. Eugène, bonsoir, vous êtes aux États-Unis ici.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Vous l'avez suivi, All-Star Game, Basketball Africa League, Basketball Without Borders, Global Camp. Ce fut un week-end depuis basket à Chicago, ici aux États-Unis. Le 69e All-Star Game a été remporté hier à Chicago donc par l'équipe de LeBron James, 157 à 155. Au programme, le sacre pour Team LeBron, mais aussi un hommage vibrant à Kobe Bryant. Une enveloppe de $300,000 a été offerte par la NBA à l'association caritative choisie par l'équipe gagnante. Finalement, LeBron James, James Harden et Ali sont allés chercher les points de la victoire, définitivement acquise sur un dernier lancer d'Anthony Davis. Auteur de 30 points en 20 minutes seulement de jeu, bien l'allié des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, a reçu le trophée du meilleur joueur du match qui porte désormais le nom de Kobe Bryant. Alors, Eugène, je commence par vous. Vous l'avez suivi, ce match de la All-Star Game. Comment vous l'avez trouvé?
Mais ça a été assez excitant puisque les règles ont changé. Il fallait gagner chaque carton et puis atteindre un score bien précis. Ben, l'équipe de LeBron James l'a emporté, mais il faut souligner cet engagement très compétitif des deux équipes lors du quatrième carton. Je pense que ça a été, d'une certaine manière, sur le plan du basket, très excitant parce que vous savez que les All-Star Games, finalement, les confrontations ne sont pas si blessées, mais là, on a mis des joueurs qui s'étaient engagés à jouer même physiquement. Mais mis à part ça, bon, les honneurs qui ont été faits à Kobe Bryant et à l'ancien commissionnaire d'Alice Stern ont été aussi très remarqués. La frustration aurait été le concours de ce match où, à mon avis, les deux joueurs auraient pu gagner le trophée et juste parce qu'ils ont fait des mauvaises calculations, ben, il y en a un qui a gagné et Gordon, pour la deuxième fois, s'est fait enlever ce titre-là qu'il aurait pu gagner déjà une fois et à cela deux ans.
Merci Eugène Péwa. Alors, vous restez avec nous. Valdo, on a eu deux Africains dans ces All-Star Games. Les deux sont tous d'ailleurs du même pays. Pascal Siakam et Joel Embiid du Cameroun. Rentrer dans ce cercle fermé, c'est quand même bien.
Oui, c'est une très très bonne chose, hein, les All-Star Games avec deux Africains et chacun du même pays. Vous l'avez dit, c'est un précis. Hein. On a souvent l'habitude de voir, de chercher, qui fait quoi, qui voit. Bon. Chaque les États-Unis, on a des Africains des régions qui participent. Mais là, avoir vraiment des Africains qui participer à ce All-Star Game, qui est une très très bonne chose, c'est une autre particulière, parce que le basketball africain est également en pleine progression. Et cette progression est constituée de performance. Donc, parce que vous savez qui bien que ce n'est pas n'importe qui devait prendre part, bien sûr, à ce championnat NBA, championnat américain de basketball. Mais aujourd'hui, ça devient une habitude, plus qu'une habitude, même pour les Africains. Donc, le basketball est en train, l'Afrique est en train de marquer des pas à travers le monde dans différentes disciplines.
Merci Valdo. Chicago a aussi accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa, une occasion pour la NBA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs et les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. Et pour lancer ce joyau bien sûr de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeant, ancienne et actuelle gloire du basketball l'ont tous reconnu, il est temps pour l'Afrique d'abriter sa propre ligue professionnelle. J'étais sur place, bien sûr, à Chicago pour couvrir cet événement. J'ai recueilli les propos de Amadou Galofal, le président de la Basketball Africa League.
On lance cette ligue après plusieurs années de travail sur le continent pour donner une opportunité aux jeunes garçons et filles qui veulent participer au basket d'avoir accès à ce sport. On sait qu'il y a un énorme potentiel en termes de talent sur le continent, Mais jusqu'ici, ce talent est toujours exporté. En créant la Basketball Africa League, on crée une plateforme sur le continent africain avec le développement des infrastructures pour avoir une ligue professionnelle qui va attirer du talent des autres coins du monde, mais aussi
Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, l'AS Douane du Sénégal, l'AS Police du Mali, l'AS Salé du Maroc, le GNBC de Madagascar, le GS Pétrolier d'Algérie, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriote du Rwanda, Petro de Luanda de l'Angola, donc River Hoopers du Nigeria, Union Monastire de la Tunisie et le Zamalek d'Égypte sont les clubs qualifiés pour cette première édition de la Basketball Africa League. Amine, le président Amadou Gallo Fall, le président de la Basketball Africa League, bien sûr, le disait, il est temps pour l'Afrique d'abriter sa propre ligue professionnelle de basketball.
Disons que cette tentative a été précédée la saison dernière par un galop d'essai qui s'est avéré concluant. Et aujourd'hui, il est évident que l'Afrique dispose d'un potentiel humain, athlétique, technique, doit développer son basketball et à travers cette synergie avec la NBA, à travers cette Basketball African League, il y a moyen de multiplier les confrontations, d'avoir des ressources financières suffisantes puisque les matchs seront télévisés, qu'il y aura de l'affluence, que ce sera 12 villes ou 12 clubs et 6 villes qui seront sujets de cette compétition. Et puis, ce qu'il y a de plus important, c'est que ces joueurs seront l'objet d'un suivi minutieux de la part des scouts de la NBA. Donc, il y a moyen de construire un basketball professionnel, cohérent, spectaculaire et capable d'exporter l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, les talents en Afrique sont nombreux. Il leur faut un terrain d'expression et ce terrain ne peut être que cette compétition qui est le début d'une professionnalisation du basketball en Afrique, le début d'un plan de développement ambitieux qui a pour but de développer davantage la pratique de la discipline, de maintenir les talents locaux et de pouvoir peut-être à moyen ou à long terme, exporter des talents loin du circuit traditionnel qui est celui des universités américaines.
Merci, Amine Birouk. Alors, je le disais, la crème du basketball était présente sur place à Chicago. On va maintenant écouter Andreas Zaklix, le secrétaire général de la FIBA.
La Ligue est un produit de la collaboration entre la FIBA et l'NBA, une collaboration déjà de 30 ans. C'est très important pour nous qu'après beaucoup de projets sur le développement, comme le Basketball Without Borders, ou par exemple les Junior NBA dans plusieurs pays, maintenant nous avons un projet d'autre niveau, un projet d'une Ligue continentale africaine où nous pouvons avoir les meilleurs clubs. Le projet a des objectifs très clairs. La promotion du basket dans les continents de l'Afrique. Deuxième, d'être dans une position où le meilleur joueur de l'Afrique peut développer et rester dans l'Afrique.
Andreas Zaklix, secrétaire général de la FIBA. Alors, Amdine, c'est Dakar qui va accueillir cette saison inaugurale et ça commence dès le 13 mars. Est-ce que déjà on en parle du côté de la capitale sénégalaise puisque l'objectif ultime est de promouvoir le basketball sur le continent? Amdine, vous m'entendez?
Et donc, on va... Oui, Yacouba, je vous entends très bien.
Et donc, je le disais, l'objectif final, comme le disait le secrétaire général de la FIBA, est la promotion du basketball sur le continent. La saison inaugurale sera lancée à Dakar et donc dans la capitale sénégalaise le 13 mars prochain. Est-ce que déjà on sent un peu d'engouement autour de cette compétition qui vise bien sûr l'objectif ultime de promouvoir la balle au panier sur le continent?
Tout à fait, Yacouba, puisque c'est une compétition qui vient à son heure. Cette compétition va permettre à 12 clubs africains de jouer tant de matchs de très haut niveau parce que c'est une compétition de la NBA. La formule sera celle de la NBA, mais le règlement sera le règlement de FIBA Monde. Donc, cette compétition vient à son heure et il y aura beaucoup d'argent à gagner puisque le vainqueur aura 90 millions. Mais même au niveau du Sénégal, puisque c'est le quintuple champion du Sénégal, la douane qui va représenter le Sénégal. La douane est en train de faire des recrutements pour être prête pour cette compétition. Et la NBA est en train de veiller sur tout cela, puisque même les salaires ont été multipliés par 5, puisque la NBA donne des subventions. Donc les clubs auront des moyens conséquents pour pouvoir quand même mettre en place de très bonnes équipes pour pouvoir quand même jouer une compétition très très relevée. En tout cas, au Sénégal, on attend cette compétition avec impatience et la douane fera tout pour représenter dignement le Sénégal. Avec l'inauguration de la salle de basket qui se trouve quand même à l'arena de Diamniadio, toutes les conditions sont réunies pour un bon départ de cette compétition. Yacouba.
Merci, Amdimsi. Alors, Jules, on connaît le problème de la plupart des clubs africains, que ce soit dans le basketball ou dans d'autres disciplines comme le football, le handball et autres, c'est le problème financier. Il n'y a pas assez de mécènes, bien sûr, derrière les sports qui se jouent en Afrique. C'est vrai que la NBA a décidé de miser gros pour un départ et donc de prendre presque tout en charge. On ne pourra pas indéfiniment compter sur la NBA pour que ce basketball-là prenne quand même de l'ampleur sur le continent.
Oui, bien sûr. Mais sinon, le geste est louable et ça permet de créer un certain engouement et de faire rêver les Africains, notamment ceux qui pensent un jour faire carrière. Et donc, avoir la ligue numéro un chez soi, sur le continent, qui en quelque sorte fait des appels du pied pour montrer que sur ce continent, on peut obtenir, et on a d'ailleurs déjà des vedettes de haut niveau, mais je crois que c'est une bonne chose, mais il faudra derrière tout cela soigner notre organisation, progresser toujours sur tous les plans et bien sûr améliorer les infrastructures et rendre ce sport populaire.
Et donc, voilà, qui est bien dit, on le sait, la salle était bondée d'anciens basketteurs et basketteuses africains. On va écouter tout de suite Amchetou Maïga Ba, qui est une ancienne gloire du basketball malien, mais aussi elle qui a été championne ici en NBA.
Ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir ça, parce que je trouve que, comme je disais, nous avons beaucoup de talent, mais seulement, des fois, c'est pas bien exploité. Donc, à travers ces compétitions, et ces jeunes auront des idoles qui pourront suivre et se dire « Non, moi aussi, je peux le faire. » C'est pas seulement aux États-Unis, mais ici, chez nous-mêmes, on peut le faire. Et on a beaucoup d'exemples. Donc, avoir ça chez nous, je trouve que c'est une très belle opportunité pour la jeunesse africaine.
Et donc, une très belle opportunité, même avis du côté de Didier Mbenga, qui est aussi une ancienne gloire du basketball, un Congolais, un Belge d'origine congolaise. On écoute Didier Mbenga.
D'abord, c'est une fierté. Je suis vraiment content parce qu'on a travaillé sur ça. Pour nous, c'est une très très grande opportunité de s'affirmer. Après tous les efforts fournis à travers le joueur africain en Amérique, il était temps pour nous maintenant d'être autonome, de s'assumer. Voilà pourquoi cette ligue, elle est vraiment bien, surtout pour le développement de jeunes et de la génération future de joueurs africains. Et non seulement ça aussi, en termes de business, ça va apporter le business en Afrique, ça va donner du travail et voilà, c'est vraiment quelque chose de bien.
Didier Mbenga, ancienne gloire du basketball, qu'on écoutait bien sûr tout de suite. Alors, Eugène Péwa, vous avez joué au basketball, actuellement vous êtes coach, vous êtes aussi dirigeant dans le domaine de la balle au panier. Vous n'avez pas eu cette chance d'avoir une ligue professionnelle en Afrique quand vous jouez. Dites-nous, quel commentaire vous avez à faire par rapport à cette nouvelle Basketball Africa League?
Moi, mes sentiments sont mitigés parce que je crois que la bonne chose, l'arrivée de la Ligue NBA en Afrique, c'est que ça va permettre à l'Afrique de pouvoir maintenant développer ses structures. Mais je crois que pendant encore de nombreuses années, c'est plus un endroit où on va prendre des joueurs africains qui vont finalement aller à l'extérieur. Parce que le problème du sport en Afrique dans le basketball, c'est surtout un problème structurel. Tant qu'on n'a pas des fédérations avec des cadres administratifs bien formés, des bons entraîneurs, des bons médecins, des bons nutritionnistes, des bonnes infrastructures, cette ligue ne va pas porter les fruits que ça devrait porter. C'est-à-dire, on ne peut avoir le talent, les joueurs ne deviendront bons que s'il y a une bonne structure. Et comme l'a dit Benga, au-delà du jeu, c'est un outil de développement socio-économique. Et tant qu'on ne voit pas ça au niveau des Africains, l'NBA peut venir tous les jours rien ne va se passer. Donc, je suis à la fois content que ça se passe finalement, parce que Amadou Fall, nous avons joué à l'université pendant les années 90 ensemble, on en parlait très souvent, et ça a pris, ça a fait son chemin. Finalement, ce sont d'autres qui viennent nous amener ça, et il va falloir que nous, les Africains, nous prenions conscience et qu'on puisse mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que cela marche, parce qu'aujourd'hui, cette ligue va avoir lieu. La plupart des joueurs, c'est des joueurs qui sont déjà d'un certain âge. La manœuvre de pression est très très limitée, et en réalité il faudrait faire un développement du basketball des jeunes pour que nous puissions avoir une ligue qui soit compétitive et qui puisse compétir avec les pays, parce que je pense que nous avons les meilleurs joueurs en Afrique avec une population de plus de 1,5 milliard d'habitants.
Et donc, voilà aussi qui est bien dit. Alors, on entendait André Zaklis, hein, le secrétaire général de FIBA Monde, dire qu'à long terme, il s'agit de maintenir les talents africains sur le continent. On sait la difficulté du basketball, et comme la plupart des sports d'ailleurs, c'est l'implication des différents États dans la gestion de ces structures, de ces disciplines sportives-là. Alors, Valdo, pour lancer bien sûr cette Basketball Africa League, on a vu que la NBA... Hein, s'est approché des présidents comme Paul Kagame, le Rwandais, qui va, d'ailleurs Kigali va accueillir le Final Four et donc les phases finales et les playoffs. Est-ce qu'il faudrait véritablement que les dirigeants africains s'impliquent pour que cette Basketball Africa League la prenne et qu'on ait une ligue vraiment professionnelle avec des structures bien en place, comme le disait Eugène tout à l'heure?
Bah, tout à fait. Les présidents africains ont intérêt à s'impliquer, parce que c'est quelque chose qui vient comme donner un boulot d'énergie à la pratique du basketball sur le continent. Et je pense bien que ça pourra aider à ceux qui ont une certaine éclosion. Aujourd'hui, Paul Kagame devient pratiquement un homme à tout faire, indispensable pratiquement, à la preuve, notamment cette visite des gens de football de la CAF à ses côtés pour solliciter également les choses. On sent que l'Afrique est en train de bouger, mais le basketball n'est pas et à peine regardé dans ce sens-là. Or, quand on parle NBA avec, bien sûr, FIBA, c'est une très bonne dynamique, et les présidents africains ont intérêt à s'approprier de cette ligue de basketball africain pour permettre à ceux qui ont une certaine éclosion, qui ont une certaine émulation dans les chefs, bien sûr, des jeunes basketteurs, quand on sait que tout à l'heure, on venait d'évoquer la problématique liée à l'âge des athlètes. Donc, c'est quelque chose de très important. On doit d'ailleurs essayer également d'emboîter les pas à la NBA qui, dans ces recrutements qui font à travers les universités, on doit relancer la pratique du basketball au niveau des études, au niveau bien sûr des écoles, des humanités, voire jusqu'aux universités, pour que cela puisse répondre et se rapprocher davantage avec des exigences bien sûr de la NBA, pour que cela soit pérenne et non quelque chose qui va ne pas être très bien accueilli. Ça risque de ne pas aider la jeunesse africaine à pouvoir bien émerger dans sa pratique.
Merci Valdo Simo Yamba Yamba. Vous écoutez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Parlons à présent de football. Les 16 équipes qualifiées pour le CHAN Cameroun 2020 connaît leurs différents adversaires dans les différents groupes. Le tirage au sort a été effectué ce soir même à Yaoundé. Alors, le groupe A regroupe le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Dans le groupe B, on a la Libye, la République démocratique du Congo, l'autre Congo et le Niger. Le Maroc, tenant du titre, fera face au Rwanda, l'Ouganda et au Togo. La Zambie recevra, hein, ou encore la Zambie fera face, disons, à la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. On va aller groupe par groupe, commençant par celui du champion en titre, le Maroc. Alors, Amine, quel commentaire vous inspire déjà ce groupe du Maroc?
Un groupe à la portée des Lions d'Atlas. Il faudra bien évidemment se méfier de cette équipe ougandaise qui a pris l'habitude de disputer les compétitions africaines. Elle a été au dernier CHAN, elle a fait très bonne figure lors de la dernière CAN avec une ossature issue des principaux clubs de Kampala. Le champion en titre au Rwanda, l'équipe des forces armées, est une équipe que connaissent les Marocains, puisque les cadres techniques qui dirigent cette équipe sont marocains. Donc l'équipe marocaine aura suffisamment d'informations sur les éléments qui composent cette équipe. Et puis le Togo, a priori, ça doit être l'ossature notamment de l'équipe de Togo Port qui avait disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions il y a deux saisons. Donc, a priori, la sélection marocaine est bien lotie. Il va falloir maintenant voir dans quel état de forme les joueurs vont arriver. Aussi, quels joueurs vont composer l'équipe, puisqu'il se peut que l'ossature des joueurs du Raja de Casablanca soit absente de la compétition dans la mesure où ils disputent la Coupe arabe qui porte le nom du roi Mohamed VI en ce qui concerne cette édition 2020. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui l'envie de la part de la fédération marocaine de rajeunir en partie l'équipe qui disputera la compétition, histoire de laisser au frais les joueurs qui disputent les compétitions des clubs, à savoir l'Ouida de Casablanca, le Raja, Berkane et le Hassania de Agadir, qui pourraient se retrouver le cas échéant en demi-finale dans quelques semaines et donc préserver les intérêts des clubs. Donc tout dépendra de la stratégie de la fédération et surtout de l'ambition de voir le Maroc remporter ou conserver ce titre, car ici, au niveau de l'opinion publique, on est de plus en plus sceptique par rapport à la compétition qu'est le CHAN, et on aspire à remporter la CAN, la vraie, la seule, l'unique, la comparable.
Merci, Amine Birouk. Alors, June, le groupe A, celui du pays qui accueille le Cameroun, regorge également du Mali, du Burkina Faso et du Zimbabwe. On va dire, c'est un groupe composé de pays qui n'ont pas assez de représentants en compétition africaine. Quand on sait que cette compétition est réservée aux locaux, c'est peut-être 50-50.
Oui, c'est un groupe très équilibré et sérieusement relevé, parce qu'on y retrouve d'abord le pays organisateur qui s'est mieux préparé que dans le passé. Et il y a le Mali qui est une formation qui gagne toujours les compétitions au niveau des jeunes et qui place bien ses équipes dans les compétitions de clubs en Afrique. Le Burkina, c'est la formation. Et surtout le Zimbabwe, lui, c'est presque la même équipe que l'équipe A qui se frotte régulièrement aux grosses équipes africaines lors des éliminatoires des différentes compétitions. Donc, il faut se méfier de tous les adversaires dans cette poule-là. Et je crois qu'elle sera particulièrement équilibrée et qu'il faudra surtout, tout se jouera surtout au niveau de l'efficacité offensive.
Alors, Valdo, le groupe B, celui de votre pays, la République démocratique du Congo, regorge également de la Libye, qui est assez redoutable parce que la Libye a quand même Al-Nassr qui évolue très bien en Ligue des Champions. On a le Congo, Brazzaville est donc votre voisin, et le Niger, dont l'équipe nationale première est la plupart du temps formée à partir, bien sûr, des locaux. Quoi qu'on dise, la République démocratique du Congo aura fort à faire.
D'ailleurs, monsieur le rapport à faire, dans ce groupe, on a pratiquement deux vainqueurs de cette édition du CHAN. La RDC qui a gagné en 2009, il y a également la Libye qui a gagné en 2011, la RDC qui a récidivé en 2016, donc c'est une très très grosse. C'est un groupe quand même assez élevé quand on sait que les Congo dans la Ligue qui actuellement jouera en amical avec la RDC d'ailleurs se trouve sur l'autre ligne pour jouer un tournoi triangulaire avec le Cameroun. La RDC a été battue hier par le Cameroun sur un état à 0 avec son nouvel entraîneur Pompil Niaye, nous avons encore à faire quand on sait que les Congo dans la Ligue avaient prisé la RDC de la dernière participation qui l'a éliminé à Kinshasa. Donc c'est un groupe aussi relevé, donc la vie démocratique du Congo a intérêt à montrer un autre visage, elle qui a été absente de la dernière édition, doit pouvoir aller aussi loin que ça, et il y a du talent, la RDC d'ailleurs, qui est l'une à Mazembe, qui est là en Ligue des Champions, il y a peut-être qui a quand même été en face du groupe de cette Ligue des Champions de la CAF, il y a des éléments capables de mieux faire, donc on attend à voir ce qu'il en sera de cette phase du groupe, le tirage au sort et les clubs, les nations sont déjà fixées sur leurs adversaires. Je pense bien que les entraîneurs vont commencer à se pencher, à travailler sur le profit de leurs adversaires.
Le groupe D renferme la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Alors, Amdine, tout de suite, on voit la Guinée peut-être sortir la tête du lot, mais ce qu'on n'oubliera pas, c'est que ce soit la Zambie, que ce soit la Namibie ou encore la Tanzanie, ce sont des équipes dont les équipes A et donc les équipes premières sont généralement formées avec cette ossature de joueurs locaux. Et donc, quoi qu'on dise, ce sont des garçons qui sont très bien habitués à jouer ensemble. Et donc, il faudra avoir un œil vigilant du côté de la Guinée.
Tout à fait, Yacouba, la Guinée va partir largement avec la faveur des pronostics, puisque la Guinée, c'est une bonne équipe au niveau local, avec des joueurs surtout du Oréa de Conakry, qui joue en ce moment les premiers rôles au niveau de la Coupe de la CAF. Mais comme vous l'avez dit, attention à la Zambie, la Namibie, mais également la Tanzanie, puisque ces équipes ont des joueurs qui sont composés à majorité des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale A, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs exportés. Donc on verra presque l'équipe nationale A qui va servir de l'équipe de base à cette équipe nationale locale.
local, donc ça reste ouvert, mais la Guinée partira avec la faveur des pronostics. C'est un groupe un peu équilibré, mais moi je crains surtout la Zambie. Yacouba.
Merci Amdine Sy depuis Dakar. Sporama qui va s'achever ici, mais sachez que le CHAN 2020 aura lieu du 4 au 25 avril dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé. Amine Birou qui était en direct depuis Casablanca, Valdo à Kinshasa, Eugène Péwa nous a parlé de basketball ici aux États-Unis et Jules Valentin Ngwe bien sûr depuis Libreville au Gabon. Merci d'avoir suivi cette édition de Sporama. À la console Kef Holmes, Michel Joseph à la réalisation, Yacouba Ouédraogo à la présentation. On se retrouve la semaine prochaine, tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia.